débats de Radio Accord. Animé par Michael Lassen.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre dans cette émission Les Débats de Radio Accord, enregistré le samedi 30 octobre au Festival de Limoges et en partenariat avec Poitou Charente Nature. Nous avons choisi pour cette émission de vous parler de la trame verte et bleue, une chance pour la nature, quelle politique en Poitou-Charente. Alors pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Pi. Dominique Pi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes dans le conseil d'administration de France Nature Environnement et on verra avec vous historiquement et législativement comment se met en place cette trame verte et bleue. Nous avons également parmi nous Sandrine Bracco de CF Nature Environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec vous, nous verrons l'exemple de la protection des chauves-souris dans notre région. Yves Baron, bonsoir. Vous êtes botaniste et nous verrons avec vous les milieux botaniques. Raphaël Grimaldi, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous représentez le CREN, le Conservatoire régional des espaces naturels. On verra avec vous comment intégrer les espaces protégés dans le cadre de cette trame verte et bleue. Et enfin, Michel Caillon, également de Poitou-Charentes Nature, bonsoir. Et avec vous, nous verrons les questions notamment qui sont liées aux inventaires et au travail des associations sur le terrain. Alors, mais tout d'abord, je m'adresse donc à Dominique Pi. Pouvez-vous nous retracer la genèse de cette trame verte et bleue née lors des discussions de ce que l'on a appelé le Grenelle de l'environnement?
Alors, la trame verte et bleue repose sur un concept qui est celui de réseau écologique. Alors, pour expliquer un peu d'où vient ce concept, la notion de protection de la nature a passablement évolué dans les dernières décennies, c'est-à-dire qu'on est passé d'une protection qui visait en premier lieu quelques espèces remarquables, à une protection qui visait davantage des milieux et des habitats. Et puis maintenant, on en vient au concept de réseau écologique ou de trame verte et bleue, dans lequel l'idée, c'est qu'on ne va pas simplement protéger quelques espèces, quelques espaces, quelques confettis de territoire, mais qu'on va aussi permettre le maillage entre ces différents espaces. Parce que les espèces, pour se maintenir, pour évoluer, elles ont besoin de pouvoir se déplacer ou en tout cas de communiquer entre noyaux de population. Pour prendre un petit exemple, si vous considérez les oiseaux migrateurs par exemple, une espèce qui va nicher en France et qui va hiverner en Afrique va parcourir un trajet parfois de plusieurs milliers de kilomètres et sur ce trajet elle va avoir besoin de faire des haltes pour reprendre les forces, pour se nourrir. Et donc il ne suffirait pas de protéger son lieu de nidification et son lieu d'hivernage, il faut aussi protéger ses haltes migratoires, donc ses espaces intermédiaire, si on veut que la migration puisse se poursuivre. Donc la politique de protection de la nature évolue dans ce sens, et la trame verte et bleue, elle met en œuvre le concept de réseau écologique qui vise à protéger des zones qui sont des zones noyaux, des espaces remarquables, mais aussi des lieux de transit entre ces zones noyaux, ce qu'on appelle des corridors écologiques.
Alors, lorsque l'on réfléchit à la mise en place, alors déjà des zones protégées telles qu'elles existaient auparavant, enfin telles qu'elles existent actuellement, de manière plutôt isolée, comme vous l'avez dit, on voit aussi toute la difficulté qu'il y a à associer différents acteurs pour que ces zones protégées existent ou pour les créer. Ne va-t-on pas face à des difficultés supplémentaires lorsque l'on va intégrer ces zones dans des espaces où il y a un aménagement public qui ne prend pas actuellement en compte ces questions de biodiversité? Quelle est la méthode pour permettre d'arriver à la création de ces corridors ou de la façon d'intégrer ces espaces?
Alors effectivement, un des enjeux de la trame verte bleue, c'est aussi de faire en sorte que les acteurs puissent s'approprier ce dispositif et le mettre en œuvre. Et en particulier, le Grenelle de l'environnement qui s'est tenu en 2007 et qui a décidé de la création de cette trame verte bleue se passait dans une configuration qu'on appelle gouvernance à 5, c'est-à-dire en associant à la fois l'État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entrepreneurs et les associations de protection de la nature. Et donc ce sont ces cinq groupes qui se sont mis d'accord sur la création de la trame verte et bleue, qui a ensuite été mise en œuvre par la loi Grenelle 1, puis la loi Grenelle 2, qui lui ont donné une assise juridique et une définition juridique. Donc ça c'est pour le niveau national. Et ensuite cette trame verte et bleue, bien sûr, va devoir se mettre en place dans les régions. Et pour cela, dans chaque région, il va y avoir un schéma régional de cohérence écologique qui devra être défini. Il sera mis en œuvre par un comité de trame verte et bleue qui sera piloté à la fois par le préfet de région et par le président du conseil régional. Et ce comité de trame verte et bleue, dans chaque région, va devoir, d'une part, cartographier les espaces, donc identifier où sont les enjeux, quels sont les noyaux d'espaces naturels qui doivent être protégés, éventuellement est-ce qu'ils doivent être complétés, et également comment est-ce qu'on relie ces espaces entre eux. Alors les relier, il faudra faire attention parce que ce n'est pas simplement créer des passages à faune sous les autoroutes, ce n'est pas simplement prévoir des bandes emmerbées le long des cours d'eau, mais c'est réellement prévoir des corridors qui vont être fonctionnels, qui vont permettre aux espèces de se déplacer ou de communiquer entre elles. Et donc ça sera aussi, quand on prévoit un grand aménagement de type ligne TGV ou autoroute, ça sera aussi ne pas détruire la zone humide, ne pas détruire la pelouse à orchidées, qui font partie des espaces naturels importants de la région. Et effectivement, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces choses-là vont pouvoir être prises en compte, puisque malheureusement, et malgré les efforts qu'a fait FMI pour cela auprès des parlementaires, la loi ne prévoit pas que la trame vertébrée soit opposable aux grandes infrastructures. C'est-à-dire que les grandes infrastructures devront simplement prendre en compte la trame vertébrée. On craint que ça soit un petit peu une faiblesse de la trame vertébrée à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la trame vertébrée ne pourra pas, dans tous les cas, s'opposer au passage.
Il n'y a pas d'aspect contraignant de prévu dans sa mise en place.
Donc alors, il est très faible.
Est-ce que ça concerne uniquement la mise en place de grands aménagements? Est-ce que au niveau plus local, dans les communes, les départements, on peut prendre en compte cette trame vertébrée pour la décliner localement et peut-être, pourquoi pas, l'intégrer dans les plans d'urbanisation ou les plans d'occupation des sols?
Tout à fait, je vous parlais des grands aménagements, mais bien sûr la trame verte-bleue devra aussi être prise en compte au niveau de la commune, et notamment tous les documents d'urbanisme qui vont être créés vont devoir prendre en compte, intégrer cette notion de trame verte-bleue et donc prévoir des zonages pour...
Alors ensuite, quelle que soit l'échelle, c'est la même méthode qui est privilégiée, c'est-à-dire mettre des acteurs autour de la table, les associations, les élus, les entreprises, et arriver à la mise en place d'un schéma, que ce soit le régional ou plus local, qui prenne en compte les intérêts de tous et qu'il n'y ait plus d'opposition. C'est un peu le schéma qui est respecté à chaque fois.
Voilà, c'est un petit peu le dispositif de mise en place, sachant que l'État n'impose pas une méthodologie fixe et identique pour chacune des régions, puisqu'en fait, certaines régions avaient déjà quelque chose qui préfigurait la trame verte-bleue qui était en place. Donc, bien sûr, l'État ne va pas les obliger à tout recommencer. Donc, l'État a prévu des guides méthodologiques qui donne les grandes lignes de la démarche à suivre, mais chaque région peut adapter à son cas particulier.
Alors on parle des régions, c'est une délimitation qui est administrative. Les zones protégées ne sont pas forcément intégrées dans une seule région, elles peuvent être à cheval sur plusieurs régions, voire plusieurs départements. C'est par exemple le cas en Deux-Sèvres-Vendée avec une zone humide. Est-ce qu'il est prévu de manière suprarégionale de faire des choses également pour prendre en compte les réalités du terrain?
Effectivement, les espaces naturels ne respectent pas les frontières administratives. Maintenant, si le travail va se faire en région, il y aura aussi bien sûr un pilotage qui sera effectué au niveau national, avec un comité national trame verte-bleue, dont France Nature Environnement fait partie, et qui va devoir un petit peu piloter et organiser les choses au niveau national.
Alors enfin, il y a une question qui est essentielle, c'est celle des moyens. Est-ce que la loi prévoit un budget qui va être alloué à la mise en place de cette trame verte-bleue?
Effectivement, là aussi, c'est un point faible actuellement du dispositif, c'est-à-dire que les parlementaires n'ont pas prévu dans la loi de financement adapté. Et donc, une crainte que nous avons à France Nature Environnement, c'est qu'il y ait des difficultés au niveau local, c'est-à-dire que si les communes ou les territoires doivent eux-mêmes prévoir le financement, on craint que ce soit une charge, bien sûr, supplémentaire pour elles. Donc, ce que nous souhaiterions, c'est, de manière un petit peu plus générale, en fait, une réorientation de la fiscalité au niveau national qui s'oriente vers une fiscalité qui soit davantage écologique, donc qui, au lieu d'encourager indirectement la destruction des milieux, encourage et même finance leur restauration ou leur conservation.
Alors finalement, pas de contraintes, pas de financement. Il y a quand même de l'espoir à avoir sur la mise en place de ce dispositif.
On espère, oui, quand même, parce que c'est une dynamique qui se met en place. On n'attendait pas que du premier coup, tout le dispositif soit tout à fait idéal. Mais c'est une première étape. On espère que les acteurs vont s'impliquer. Nos associations vont s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de ce dispositif au niveau régional et communal. Et nous souhaitons que ça prenne de l'ampleur et que ça prenne toute sa dimension.
Donc Dominique Pi, merci. Alors si peut-être la position de France Nature Environnement sur le sujet, alors vos craintes peut-être sur l'aspect manque de contraintes et le manque de moyens mis en œuvre, est-ce qu'il y a d'autres critiques ou d'autres satisfactions que vous pourriez avoir vis-à-vis de ce dispositif de trame verte-bleue?
Alors effectivement, pour nous c'est quand même une avancée, c'est un point positif, même avec toutes les réserves que j'ai pu vous exprimer. Ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est que l'élaboration de la trame verte-bleue a mis en lumière le fait d'un manque important de connaissances naturalistes notamment au niveau local, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours sur une commune, on ne sait pas quelles sont les espèces de faune et de flore qui sont présentes. Et ce constat était à l'origine du lancement d'un nouveau projet qui s'appelle les Atlas communaux de biodiversité, qui va être mis en place tout d'abord sur quelques communes pilotes et dont on espère qu'il va s'étendre ensuite et qui vont ensuite, pour une commune, à cartographier les habitats et à recenser, si possible, les espèces de faune et de flore qui sont sur sa commune, de telle sorte que chaque commune va pouvoir connaître quelle est la biodiversité qu'elle possède et souvent connaître la biodiversité qu'on a sur son territoire, ça incite à le protéger parce qu'on connaît mieux.
Alors nous verrons un peu plus tard le travail que peuvent avoir les associations naturalistes dans ce domaine, en partenariat d'ailleurs souvent avec des communes. Je me tourne à présent vers Sandrine Bracco. Avec vous, on va voir l'exemple de la chauve-souris. Comment la chauve-souris peut éventuellement bénéficier de cette trame verte et bleue. Alors avant de faire de la prospective, peut-être est-ce que vous pourriez nous faire rapidement un petit bilan du travail qui a été fait autour de la protection de ce mammifère.
Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire que les chauves-souris nous semblent être de bons outils pour contribuer à la réalisation du schéma de cohérence écologique régional. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de détailler ces animaux-là. Je développerai peut-être tout à l'heure l'aspect biologie des chauves-souris, donc avec ce qu'a déjà dit Dominique Pie, avec tous leurs besoins au cours du cycle biologique. Et donc on a décidé aussi de choisir ces animaux parce que c'était des animaux qu'on connaît bien au niveau régional. On a un recul de 25 ans en matière d'études. Ce sont des animaux qu'on peut facilement suivre. Effectivement, il est possible de compter les colonies de reproduction. Donc ça, c'est des choses qu'on pratique au quotidien, qu'on sait bien faire. Grâce à ça, on peut avoir une évolution des effectifs, des populations, connaître les liens entre les différentes colonies. Il est aussi possible de quantifier, de qualifier l'utilisation des terrains de chasse des chauves-souris par le biais de l'utilisation des détecteurs ultrasonores et aussi par le biais de la télémétrie que je détaillerai peut-être aussi tout à l'heure. Donc nous avons les compétences au niveau régional et les moyens pour réaliser des études sur les chauves-souris pour toujours contribuer à la mise en place de ce schéma régional.
Au niveau de la protection, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place?
Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs sites Natura 2000 au niveau régional qui intègrent la prise en compte des chauves-souris, comme par exemple les carrières de Loubeau à Mel, qui est une grotte qui abrite des chauves-souris, les carrières de Rancogne en Charente. Donc on a le réseau Natura 2000.
Alors, comment est-ce que ça se traduit, cette protection, par exemple, sur ces deux sites? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tout faire, on a le droit de les fréquenter.
Donc sur les sites eux-mêmes, le premier aspect, c'était de limiter la fréquentation, car ce sont des cavités souterraines, et une des principales causes de régression des chauves-souris dans ces cavités, c'était la fréquentation humaine. Donc on a posé des grilles pour limiter les intrusions humaines. Donc nous réalisons aussi, dans le cadre de Natura 2000, des suivis réguliers pour voir l'évolution des populations, mais on a aussi des mesures agri-environnementales qui se mettent sur le périmètre des sites Natura 2000 pour favoriser une bonne gestion des habitats des chauves-souris. On a des mesures du type plantation de haies ou plantation d'essence favorisant les insectes, par exemple, aux abords des cavités, etc. Donc, pas mal de mesures. En termes de protection, il existe aussi un autre outil qui est l'arrêté préfectoral de protection de biotopes. Je vais citer un exemple en Deux-Sèvres parce que c'est un petit peu le département que je connais mieux. Donc, par exemple, la citerne d'eau de Saint-Ouen, qui est un bâtiment qui abrite une colonie la plus grosse du département pour le grand rhinolophe et le merin royal crêt. Elle abrite environ 800 chauves-souris en été, 200 en hiver. Donc, on a décidé, de cette nature environnement, a décidé de proposer un APPB pour ce site, c'est-à-dire en quelque sorte une mise sous cloche du site, en partenariat avec le propriétaire du site, qui actuellement est le syndicat de Benedo Déchiré. Donc voilà, on a aussi fermé les accès. La principale mesure, c'est le non-dérangement des chauves-souris pendant leur période de présence.
Alors, vous avez évoqué le partenariat. Est-ce que dans la démarche de protection ces dernières années, avant qu'on parle de trame verte et bleue, c'était déjà une démarche que vous aviez en tête? Est-ce que c'était facile d'entrer en relation avec les propriétaires de sites, avec les entreprises qui peuvent notamment avoir des projets sur des sites protégés ou des sites de fréquentation des chauves-souris?
Alors, à toutes les échelles, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Un partenariat, c'est la... l'outil indispensable, on va dire, pour protéger les chauves-souris, il faut que ce soit dans une démarche vraiment partenariale et en concertation avec les propriétaires. Donc on a mis en place aussi une charte départementale pour la protection des chauves-souris en Deux-Sèvres sur les bâtiments publics. Donc là, actuellement, on a mis cette charte au niveau communal. Donc on rencontre les élus et on essaye de mettre en œuvre cette charte en partenariat avec eux. Donc c'est un outil qui marche bien. On essaye de faire la même chose au niveau des propriétaires particuliers, ce qui est plus compliqué quand on s'attaque à l'habitat privé.
Alors justement, sur là on parle de sites, par exemple de sites. Alors on sait que dans la trame verte et bleue, l'enjeu aussi c'est de faire circuler les espèces. Est-ce que les chauves-souris ont un besoin de circulation en ce qui concerne cette espèce particulière, et quelles pourraient être les évolutions qui permettraient de relier les différents espaces concernant précisément la chauve-souris.
Alors, donc un petit point sur la biologie des chauves-souris. Donc, les chauves-souris sont rythmées sur les saisons. Donc, elles vont utiliser plusieurs composantes du milieu au cours de leur cycle annuel. Elles vont utiliser des gîtes d'hiver et des gîtes d'été qui seront différents. Donc, ces gîtes peuvent être des gîtes en milieu bâti, des cavités souterraines, des grottes ou bien des arbres. Elles vont effectuer, donc, dans un premier temps, des déplacements saisonniers entre ces deux gîtes. Donc, ces déplacements peuvent être de quelques dizaines de kilomètres pour la majorité des espèces, mais ils peuvent être aussi de plusieurs centaines de kilomètres pour le Minioptère de Schreiber, par exemple, qui peut faire jusqu'à 300 kilomètres entre les gîtes d'hiver et les gîtes d'été. On a aussi des chauves-souris qu'on dit réellement migratrices, qui peuvent effectuer plusieurs milliers de kilomètres, comme la pipistrelle de Natusius, par exemple. Donc, ce sont des animaux qui se déplacent beaucoup au cours de l'année. Au cours d'une saison aussi, les chauves-souris sont des animaux nocturnes, donc qui vont rester dans leur gîte en journée, qui vont sortir chasser le soir sur leur territoire de chasse. Donc elles vont se déplacer aussi de leur gîte à leur territoire de chasse toutes les nuits. Donc c'est pareil, ces déplacements peuvent être variables. On peut avoir des déplacements très réduits, de moins d'un kilomètre pour les oreillards ou les petits rhinolophes. On peut avoir des déplacements plus importants, toujours pour le Minioptère de Schreiber, jusqu'à 90 kilomètres. Pour aller de son gîte à son territoire de chasse. Donc là, ça commence à être vraiment important. Et enfin, les chauves-souris se déplacent aussi. Elles peuvent utiliser plusieurs terrains de chasse au cours d'une soirée. Plusieurs terrains de chasse pour un individu, ça constitue un territoire de chasse. Donc ces terrains de chasse sont aussi reliés entre eux par des corridors et sont utilisés au cours d'une même nuit par un même individu. Donc c'est pour ça que ça nous paraît être vraiment des animaux intéressant dans le cadre de la trame verte et bleue, parce que ce sont vraiment des animaux qui utilisaient les corridors.
Alors, est-ce qu'ils se sont adaptés au cours du temps à l'aménagement du territoire qu'ont fait les humains, ou est-ce que ça a été préservé un peu de manière aléatoire?
Certaines espèces ont pu s'adapter, donc certaines espèces, comme par exemple les noctules, qui sont des espèces de haut vol qui chassent au-dessus de la canopée à plus de 40 mètres d'altitude, ne sont pas vraiment tributaires des corridors biologiques, donc elles, ça ne leur a pas réellement posé de problème. D'autres espèces comme le rhinolophe, le grand rhinolophe, dont je vais détailler un petit peu la biologie tout à l'heure, sont très liées aux corridors biologiques. Ils vont utiliser des corridors pour aller chasser. Son territoire de chasse au grand rhinolophe, c'est réellement un milieu semi-ouvert, typiquement le bocage de Gâtine. Donc là, il a réellement besoin des haies. Les haies vont lui servir de protection contre le vent, contre la pluie, contre les prédateurs, mais aussi de guide de déplacement. Simplement, le rhinolophe peut aussi exceptionnellement se déplacer à terrain découvert pendant seulement quelques centaines de mètres. Si on prend l'exemple du petit rhinolophe qui est beaucoup plus strict, lui, un espace de 10 mètres de vide entre deux haies est une barrière infranchissable. Donc voilà, donc celui-ci c'est beaucoup moins adapté. Et si vraiment le maillage de corridors est détruit, ces espèces vont en pâtir, la colonie peut disparaître.
Bien, merci donc pour cet aspect sur la chauve-souris. Je me tourne à présent vers vous, Yves Baron. Alors, concernant les plantes, les milieux botaniques, alors on suppose qu'elles bougent un peu moins vite et un peu moins souvent que les animaux. Concernant donc les milieux botaniques.
Oui, ce que je voulais dire d'abord, pour reprendre ce qu'a dit Marie-Gine tout à l'heure, et il y a en matière de naturalistes des carences de plus en plus graves, notamment ce qui concerne les botanistes. Un exemple, nous avons à peu près, au chiffre rond, 2000 espèces de plantes à fleurs sauvages en Poitou-Charentes. Et face à ça, les troupes botanistes Alors, évidemment, il faut définir quel est le botaniste à prendre en compte. Parce que c'est pas facile, parce qu'il y en a de toutes sortes. Le botaniste qui est important ici, c'est celui qui va participer aux inventaires, qui va faire du terrain, qui va s'investir, etc., pour une tâche collective, etc. Et à ce moment-là, ça me met en compte qu'on est dans la vingtaine, on peut tout rendre. Pour 2000 espèces, vous voyez le rapport. Alors ça suppose un investissement massif. Alors, on en est évidemment à recruter des professionnels. Bon, alors là, évidemment, on en a quelques-uns. Mais le problème, c'est la mobilisation des amateurs, dont certains pourraient avoir, s'ils n'y sont pas, rapidement les compétences nécessaires.
Pour avoir une illustration concrète de ce travail, donc une vingtaine pour 2000 espèces.
On se chiffre très en particulier.
Mais le travail de recensement, c'est sur l'ensemble d'un territoire, on va essayer de détecter la présence de telle ou telle espèce quantitativement.
Alors justement, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces. Et nous ne sommes pas en état de faire un inventaire systématique. Alors évidemment, maintenant, il y a le relais puissant, maintenant organisé, du conservatoire sud-atlantique qui va le faire méthodiquement. Mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire des choses comme ça. Déjà, pour l'inventaire des SNIEF, personnellement, j'ai participé aux trois éditions successives. Et la dernière était autour des années 2000. Eh bien, savez-vous que pour le département de la Vienne, nous étions deux. Et à peu près, à peine autant dans certains départements. Alors, vous voyez la dimension du problème. Alors, on pourrait se retourner autour. Donc, autrefois, il y avait les anciens, les gens qui sont tous morts maintenant d'ailleurs, qui étaient en gros les élèves de Raleigh, le professeur à l'école normale de La Rochelle, qui a motivé ses élèves, qui en a fait des botanistes et certains de haut niveau, notamment les bryologues. Eh bien, il n'y a plus de bryologues en Poitou-Charentes à l'heure actuelle.
Qu'est-ce que c'est qu'un bryologue ?
C'est quelqu'un qui étudie les mousses, les hépatiques, les sphaignes. Il n'y en a plus à l'heure actuelle de cette génération-là qui représentait la moitié des bryologues français, rien qu'au Poitou-Charentes. Et il y en a un qui s'y met, qui est Pierre Plat, qui est déjà assez costaud, mais il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a peut-être d'autres que j'ignore. Mais enfin, c'est pour dire quel est l'état des lieux. Quoi. C'est catastrophique. Alors, je suis ancien universitaire. Bon, j'ai formé pas mal de professeurs de sciences naturelles en botanique de terrain, entre autres. Et certains sont devenus des spécialistes intéressants. Il y en a un qui a trouvé deux espèces nouvelles de lichen dans la science et le professeur appartenait. Par exemple, il y en a quand même quelques-uns. Mais si on ne pratique pas après ce qu'on a appris, qu'une initiation, eh ben, on oublie tout très rapidement. C'est malheureusement le cas à l'heure actuelle. Alors les programmes de formation des maîtres CAPES, etc., à l'heure actuelle, figurez-vous, quand je suis parti à la retraite, ça a été divisé par deux et fixé au premier semestre, avec une sortie au mois de mars. Vous imaginez le contenu que ça peut avoir. Donc on ne peut pas compter sur cette voie-là à l'heure actuelle, tout serait à refaire.
Alors on voit tout de suite le problème que ça pose. Si on ne peut pas recenser, on ne peut pas mesurer les risques qu'il y a pour telle ou telle espèce, est-ce qu'elles sont en diminution, en augmentation
Alors ça... si quand même, parce que bon, disons que les gens de terrain, ils suivent ça quand même d'assez près, c'est leur loisir, ils y passent beaucoup de temps. Hein. Donc on sait assez bien les choses, d'autant plus qu'on a été, il faudrait que je le dise quand même, on a été précédé par des anciens, fin 19e, début 20e, dont le plus notoire est Souchet, qui était instituteur, et qui a organisé la prospection pour sa flore du Haut-Poitou, Vienne et d'Auxerre, et qui est parue en 1901. Alors, il recense dans sa préface 207 correspondants, instituteurs, pharmaciens, ecclésiastiques, etc., etc., même un propriétaire, je crois qu'il y a un agriculteur.
Des amateurs.
Des amateurs. Donc voilà, il y avait un courant d'amateurs très, très important, et qui s'amenuise à l'heure actuelle et qui n'est pas appuyé par un courant professionnel.
Alors, au niveau de. Alors, on voit le problème du recensement. Concernant la trame verte, c'est-à-dire, quelle est la problématique pour les espèces végétales? Alors, on le voit très bien pour les animaux, il y a un besoin de circulation, un besoin de faire des étapes en cas de migration. Pour les végétaux, quel est l'enjeu?
L'enjeu, il est précisément le contraire, en gros, quoi. C'est-à-dire que les plantes, ça ne bouge pas, c'est fixe. Autrement dit, si un animal peut, enfin en gros, hein, si un animal peut changer de milieu en fonction des besoins du moment, un endroit pour boire, un endroit pour se coucher, un endroit pour manger, etc., il peut passer rapidement d'un à l'autre, on l'a évoqué à propos des chauves-souris, l'instant. En matière de plantes, ce sont pour l'essentiel des organismes enracinés. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont quelque part, c'est pour la vie. En gros.
Ils ont un petit déplacement quand même avec la pollinisation.
Oui, il y a la pollinisation, il y a les influences des animaux, bien sûr. Mais il y a des animaux qui. Bon, il y a deux sortes de moyens de déplacement pour les plantes. C'est d'abord à l'état de graines, de semences. De diaspores ou de boutures, hein, des boutures spontanées qui peuvent bouturer là où ils se posent, si les conditions sont favorables. Alors le problème, c'est qu'une plante, elle doit assurer tous ses besoins à l'endroit où elle s'est définitivement implantée. Tous ses besoins.
Si son habitat est détruit.
Le problème, c'est l'habitat. Voilà. C'est exactement le contraire. Ce n'est pas les migrations dans des couloirs organisés au mieux, c'est comment je vais pouvoir assurer tous mes besoins à l'endroit où je suis pour le restant de ma vie.
Dominique Pi, vous vouliez ajouter une précision?
Juste un petit bémol à ce que vient de dire Yves Baron, c'est que le changement climatique va apporter une nouveauté quand même sur cet aspect-là. Effectivement, les plantes ne bougent pas, mais avec l'évolution du climat, on peut penser que l'aire de répartition des plantes va cependant évoluer, c'est-à-dire que plus le climat va se réchauffer, plus elles vont avoir tendance à monter en altitude, et donc c'est aussi quelque chose qui devrait être pris en compte dans la conservation des milieux.
Bien sûr, j'allais l'aborder d'ailleurs, alors, en citant un exemple assez frappant. Je prendrais chez le chêne Cécile. Bon, c'est pas un rapide. C'est un arbre, donc ça pousse plus lentement que les plantes herbacées. Alors, si le chêne Cécile, il est, par exemple, bon, il y a un chêne qui a un gland qui tombe là, qui tombe à un certain endroit. Bon, à supposer que ça marche, que ça lui convienne, parce qu'il faut qu'il y ait l'humidité, la profondeur de sol, l'orientation, etc., le climat, etc., qui lui convienne. S'il arrive à pousser, il va lui falloir 70 ans pour atteindre l'âge adulte. Au bout de 70 ans, il aura sa première glandée. À supposer que cette glandée réussisse, la dispersion, les glands cellulaires s'attendent verticalement en principe. La dispersion maximale va être à la longueur de la branche. Hein, le gland le plus au bout, il va tomber verticalement. À supposer que ça réussisse, il faudra encore atteindre. Il aura gagné 5 mètres hein, depuis la germination du premier gland. Il faudra attendre encore 70 ans. Pour que le chêne, ces nouveaux chênes-là, puissent se reproduire, et ainsi de suite.
Donc, il faut plusieurs siècles pour qu'il fasse
voilà. Alors, le résultat concret, c'est que le climat peut se modifier plus vite que les arbres peuvent suivre. Alors, je prends un exemple concret, l'Angleterre, les îles britanniques, plus exactement, où le hêtre n'occupe que la moitié sud des îles britanniques, à l'heure actuelle. Alors que, les spécialistes, et les Anglais sont bien placés pour ça, ils sont très branchés sur ces questions, considèrent que l'aire potentielle du hêtre, ça serait la totalité des îles britanniques, jusqu'au extrême nord de l'Écosse. S'il n'y est pas arrivé, c'est qu'il n'a pas eu le temps, c'est qu'il est allé moins vite que la modification du climat depuis la fin des glaciations. Vous imaginez la dimension du problème. Évidemment, avec les plantes annuelles, ça va beaucoup plus vite, certainement, même plus d'une génération par an, donc ça peut aller plus vite. Et puis le cycle est court, donc elles vont vivre quelques mois, et puis se reproduire, etc. Puis alors, le vent peut jouer un rôle, évidemment, et les oiseaux, hein, dont j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que quel que soit le moyen, quelle que soit la distance obtenue par ce moyen, la semence, elle va tomber, à un moment donné. Et ce sera là, son terrain. Alors, elle germe, si elle ne germe pas, la question ne se pose pas, ça part à zéro. Si ça germe, il faudra encore que ça puisse durer. Alors, si le climat est différent, par exemple, ça ira pendant l'été, et puis si l'hiver arrive, il est trop froid, ça sera perdu.
Alors, est-ce que si la nature ne peut pas faire son jeu toute seule, est-ce que l'homme peut aider en allant planter des espèces à tel ou tel endroit ?
La nature fait quand même, ceci dit, fait quand même très bien son boulot. Hein, elle sait faire ça depuis longtemps, avant que l'homme n'existe. Hein. Alors, le problème, c'est le facteur temps. Le facteur temps, on est toujours trop pressé, et les plantes vont à leur rythme. Alors l'homme peut faire des choses, évidemment. Il peut mettre des bâtons dans les roues. C'est surtout ce qu'il fait en général. Par exemple, je prends l'exemple du chêne pubescent. Il y a une vingtaine, 30 ans maintenant, 1980 par là, je participais à la prospection pour la carte de la végétation de feuilles de Châteauroux. Et on se trouvait ce jour-là, dans le nord de l'Indre, au-dessus de Châteauroux, à un pays de plaine verte qui s'appelle la Champagne berrichonne. C'est une petite bauche, quelques milliers d'hectares quand même. Alors là, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, pratiquement pas d'arbres, pas de haies. La flore se limite au fossé, c'est moi qui l'ai recensé au micro en circulant, on faisait 300 à 400 km par jour en zigzagant dans tous les itinéraires possibles. Et au bout de la journée, on s'est demandé, tous les trois, en fait, comment ça se fait? On n'a pas vu un seul chêne pubescent de la journée. Alors évidemment, s'il n'y a pas de forêt, ça ne facilite pas. Mais quand même, il y a des arbres isolés de temps en temps. Comment ça se fait? C'est son terrain calcaire. Et d'autre part, il est largement à l'intérieur de son aire qui remonte jusqu'au-delà de Paris. Donc on est dans l'aire normale du chêne pubescent. Comment ça se fait que sur tout ce territoire, il n'y en a pas? Alors sur le moment, on a laissé la question en suspens, on ne savait pas. depuis que j'ai réfléchi, puis il m'est venu une idée, je pense qu'elle vaut, enfin, peut-être un petit peu quelque chose, c'est qu'il n'y a pas justement ce relais qui existe dans les trames vertes. C'est-à-dire que, où voulez-vous qu'il puisse supposer qu'un gland chêne pubescent tombe au milieu d'un champ de blé. La charrue va passer quelques semaines après, c'est fichu. Alors, il y a peut-être une petite chance s'il arrive à tomber à la limite d'un fossé, où il sera peut-être tranquille. Mais voilà, donc il n'y a pas de chêne pubescent parce qu'il n'y a pas de relais. Donc l'homme a enlevé le relais possible parce qu'il n'y a pas de bois, de lisière, etc.
Il a mangé l'espace qui était nécessaire au développement.
L'espace s'est converti en autre chose, complètement, avec une maîtrise totale, parce qu'il y a des moyens considérables.
Je me tourne justement maintenant vers vous, Raphaël Grimaldi, pour cette notion d'espace protégé qu'on doit intégrer dans des espaces qui le sont moins. Donc on connaît tous ces espaces. Alors est-ce que vous pouvez peut-être dire en introduction, on a parlé tout à l'heure de Natura 2000, quels sont les différents types d'espaces protégés, de quelle protection ils bénéficient, puis comment essayer de les intégrer à des espaces qui le sont moins.
Donc effectivement, au niveau régional, on a différents types d'espaces protégés. Les espaces qui bénéficient d'une protection réglementaire, donc liés à des dispositifs d'État. Donc Sandrine Bracco parlait des arrêtés de protection biotope, en prenant par exemple l'exemple de la citerne de Saint-Ouen ou des carrières de Louveau au Siamel. Hein. Donc ça, c'est un dispositif de protection important. Il y a également des sites classés, des réserves naturelles. Et on a aussi un réseau de sites, on va dire, qui bénéficie d'une mesure de protection de type contractuel ou partenarial, sachant qu'on a des sites qui bénéficient des mesures de protection réglementaire et partenariale combinées également. Effectivement, ces dispositifs permettent d'avoir un réseau de sites protégés sur le territoire, et ça, c'est un des points essentiels, évidemment, dans le cadre de la réflexion sur la trame verte et bleue, sachant que cette trame doit avoir deux grandes composantes, on va dire. À notre sens, c'est effectivement un maillage de sites cœur de biodiversité ou réservoir de biodiversité, donc qui présente un intérêt patrimonial majeur. Alors, comme type de site, hein, évidemment, c'est des sites qui doivent présenter, on va dire, des milieux prioritaires à l'échelle de la région. Donc, au niveau du conservatoire, on a une stratégie qui a été mise en place et qui vise à intervenir sur, on va dire, 5 grands types de milieux prioritaires, donc les cavités à chauve-souris, donc qu'évoquait Sandrine Bracco, des sites de zones humides, les marais littoraux, les marais continentaux, des sites de tourbières, donc qui jouent un rôle vraiment majeur en termes d'accueil de la biodiversité. Je rajouterai aussi qui ont un rôle important par rapport à l'enjeu eau, qui est un enjeu aussi environnemental fort sur la région Poitou-Charente. Et ça, je pense que c'est important de mettre en avant justement cet enjeu combiné hein, pour les sites de zones humides. Au type de milieu prioritaire hein, sur la région, les landes et brandes, brandes du Poitou, hein, donc un milieu typique de la région. Et puis on peut finir en évoquant les pelouses sèches, donc des milieux plutôt affinité méridionale. Donc là, c'est effectivement des grands types de milieux prioritaires qui constituent des cœurs de biodiversité. Et voilà, pour arriver vraiment à une préservation de la biodiversité en Poitou-Charentes, c'est important de constituer un réseau de sites présentant ces types de
milieux. Je voulais ajouter qu'il ne suffit pas qu'il y ait un arrêté de biotope. J'en ai obtenu une demi-douzaine dans la région du Sac. J'étais tout content. Le problème, c'est que ce n'était pas suivi des faits, il n'y avait personne pour les gérer, et que ça a servi essentiellement à l'exploitation de la dolomie avec des bulldozers, hein, des pelleteuses. Pour une part, et pour une autre part, on a constitué un enclos à sangliers pour chasse le week-end, dans l'endroit le plus précieux, avec 3 espèces protégées au plan national. Donc la protection effective, c'est une paire de manches. Il n'y a pas grand monde pour l'assurer réellement, pour verbaliser, par exemple. Il n'y a personne, il n'y a pas d'inspecteur qui puisse dire « Ah, je dresse un procès verbal ». Puis comment voulez-vous ? Un type arrive sur le coin, il veut verbaliser, il ne sait pas ce qu'il y a avant, il est obligé de part sur parole, celui qui atteste que c'était différent avant. C'est très difficile. Alors évidemment, la meilleure solution, c'est la gestion par des structures comme le conservatoire. Évidemment, heureusement qu'ils sont là maintenant, parce que sinon, les tourbières ont été détruites dans les dernières années, hein, dans mon rayon par exemple.
Oui, est-ce que ça consiste déjà à faire un recensement de l'existant, une sorte d'état des lieux, pour que justement on ait des outils en main pour dire, voilà, c'était comme ça auparavant, vous l'avez détruit, il est nécessaire d'avoir ce recensement-là.
Alors, Le recensement, effectivement, est évidemment essentiel, puisqu'il va guider, d'ailleurs, voilà, les projets d'intervention pour intervenir aussi à l'échelle de la région, on va dire, sur les zones les plus prioritaires et les plus menacées. Donc, c'est vrai que les associations, comme les Sous la Nature, hein, notamment, ont un rôle important pour guider, justement, les stratégies d'intervention et savoir sur quel type il est nécessaire vraiment d'intervenir. Pour revenir sur ce qu'évoquait Yves Baron, effectivement, la protection réglementaire, c'est un outil. Mais ça ne peut pas être la seule solution, sachant qu'effectivement, bah, pour arriver à préserver et gérer un site durablement, il y a effectivement besoin de mettre en place déjà des acteurs autour de la table, et notamment les différents usagers, et puis souvent de mettre en place des actions d'aménagement. On parlait des dispositifs de protection sur les carrières de loup, avec la pose de grilles par exemple, mais mettre en place aussi des actions de plantation pour restituer une trame bocagère et surtout des choses. Zones de chasse et de transit pour les chauves-souris.
Parmi tous les sites que vous venez de décrire, on voit des sites qui sont extrêmement divers. On peut supposer qu'ils sont aussi divers en matière de population botanique ou de faune, hein, de flore ou de faune. Est-ce qu'il est pertinent de les relier entre eux? Est-ce que ça se justifie?
Alors tout à fait, c'est vrai que avoir des sites cœur de biodiversité, c'est important, mais si on veut avoir un réseau écologique fonctionnel, le lien entre eux et donc leur connexion, en fait, est effectivement essentiel. D'où, effectivement, dans le cas de la trame verte et bleue, de pouvoir travailler sur, sur la mise en place de corridors biologiques, d'éléments de connectivité entre ces sites.
C'est donc intégrer ces espaces protégés dans un autre espace avec des zones, on va dire des zones tampons, des zones de liaison, qui, elles, ne bénéficieraient pas de cette même protection, mais qu'il faut tout de même prendre en compte. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Vous l'avez vu, Yves Baron évoquait les difficultés de faire respecter certains lieux importants pour comme réservoir de biodiversité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, peut-être avec la méthode de consultation avec plusieurs partenaires.
Alors, pour ce point-là, effectivement, donc on peut peut-être dégager deux grands types d'éléments de connectivité, alors qu'on va appeler trame verte et trame bleue. Donc, concernant la trame verte, effectivement, ça concerne les formations végétales linéaires ou ponctuelles. Hein, donc, pour parler plus concrètement, tout ce qui est arbres isolés, boisements, et aussi surtout prairies et systèmes bocagers. Et effectivement, pour pouvoir assurer ces éléments-là sur le territoire, voilà, c'est pas seulement une association type le conservatoire régional qui est le seul à pouvoir travailler sur ces éléments-là. Il faut associer les différents acteurs, les différents usagers. Je pense notamment effectivement au monde agricole, hein, sur la région, par rapport au maintien d'un réseau de prairies important pour la trame verte. Le monde agricole est important à associer et a vraiment un rôle déterminant dans la trame verte. Donc, il faut pouvoir intervenir avec l'ensemble des usagers, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive maintenant à pouvoir transformer cette idée de trame verte par la mise en place vraiment d'un réseau d'acteurs fonctionnels et d'actions vraiment pertinentes sur le territoire.
Alors, parmi ces acteurs essentiels, il y a bien entendu les associations qui font un travail depuis déjà de nombreuses années, bien avant que le Grenelle se mette en place et décide de ce dispositif de trame verte et bleue, et notamment sur les questions d'inventaire. Michel Caillon, est-ce que vous pouvez nous retracer peut-être ce travail qui a été effectué ici en région Poitou-Charentes par de nombreuses associations qui sont fédérées pour certaines dans Poitou-Charentes Nature?
Tout à fait. Il est évident que si l'on veut faire une trame verte et bleue efficace, il est nécessaire d'abord d'avoir un très bon maillage pour connaître l'état des lieux, c'est-à-dire quel est l'état des différents lieux, faire l'inventaire des espèces qui les composent, ces milieux, faire en sorte que on ne travaille pas uniquement que sur une espèce et des groupes d'espèces. D'autre part, on travaille sur la base d'écosystèmes, c'est-à-dire d'ensembles comprenant non seulement les végétaux, les animaux, les sols, etc. Donc, les associations se sont penchées déjà, les associations de protection de la nature, sur cette problématique depuis plusieurs années. Pierre Guy, il y a quelques années, a pris l'initiative de confier à un groupe piloté par Jean Théris, qui travaille à la Ligue de protection des oiseaux, l'inventaire des différents milieux de la région en s'inspirant des données européennes. effectivement, ce travail qui a commencé en 2006 et qui vient tout juste de s'achever ou à peine, a permis de travailler avec un certain nombre d'associations, tout un réseau partenarial qui s'est construit avec des spécialistes de différentes disciplines. Il n'y a pas eu que des botanistes, il y a eu des gens spécialisés sur les insectes, sur les sols, sur les champignons, sur les mousses, etc. Ce travail a permis de faire l'inventaire des 232 habitats régionaux. Il y en a 232, si vous voulez, qui ont été effectivement bien inventoriés, parmi lesquels on a pu en distinguer 130 qui ont un fort intérêt patrimonial. Et parmi ces 130, 90 qui pourraient figurer sur une liste rouge. Alors, maintenant, si on se réfère par rapport, si vous voulez, aux espèces qui sont dans ces milieux-là et qui méritent d'être protégées de manière absolue. On dispose d'un certain nombre de données qui sont fournies par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui a recensé 33 espèces qui sont à placer en haute priorité de protection. Donc, nous avons la responsabilité d'éviter l'extinction sur 33 espèces dans notre région. Alors, ces espèces, elles fréquentent un certain nombre de milieux, et précisément, c'est ces milieux-là qu'on devra protéger en priorité et sur lesquels il faudra travailler vite sur un maillage rame verte et bleue. Alors, ces milieux, ils sont majoritairement des milieux aquatiques. On a comme espèce dans le milieu aquatique, si vous voyez, le héron pourpré, par exemple, qui est presque en voie de disparition dans notre région. D'autres milieux, c'est les milieux littoraux, des estuaires avec l'angélique des marais, et qui est aussi une plante qui est très localisée dans notre région sud-ouest et centre-est, sur le littoral. Les landes du Montmorillonnais, on a parlé tout à l'heure, les brandes, les fourrés à genévrier ou à buis, et à buis, les pelouses calcicoles à orchidées, les prairies inondables à fritillaires, les tourbières, les bas marais alcalins, certaines forêts comme les hêtraies et les forêts alluviales. Alors, ça, c'est un inventaire, si vous voulez, qui vient de s'achever, mais il y a eu beaucoup d'inventaires particuliers sur un certain nombre de points. Notamment, on a travaillé sur l'inventaire de tous les mammifères de la région, des insectes, des papillons, des libellules. Enfin, il y a un grand nombre d'inventaires, et c'est sur ces points-là qu'on pourra travailler, si vous voulez, pour constituer vraiment une trame verte et bleue valable.
Alors, nous reparlerons dans une prochaine émission aussi de ces questions d'inventaire et notamment de leur reconnaissance aussi, puisqu'il peut y avoir débat sur la qualité de cet inventaire selon par qui il est réalisé. Je vous remercie. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Je vous invite à suivre une prochaine émission toujours autour de ce terme de la trame verte et bleue, cette fois-ci en présence d'élus et de responsables de l'État. Merci à tous.